Bonjour Tiffaine, et aujourd'hui nous vous proposons d'écouter une émission consacrée à la couleur noire. Attention, cette émission a été enregistrée avant l'annonce du confinement et donc avant la fermeture des musées.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est l'histoire d'une couleur que nous allons raconter cette semaine dans la Compagnie des œuvres, la couleur noire, qui en est bien une, contrairement à ce que l'on a dit pendant longtemps, et qui fait l'objet d'une exposition au Louvre-Lens jusqu'au 13 juillet prochain sous le titre de Soleil noir, car c'est toute l'ambiguïté de ce qui est sombre que de n'exister que par la lumière, comme nous allons le voir ici jusqu'à jeudi. Jeudi, où nous parlerons justement de cette exposition qui est l'occasion de notre thématique. Mercredi, avec Camille Charlia, nous évoquerons l'œuvre incontournable de l'artiste plastique Pierre Soulages. Alors que demain, c'est du noir chez Victor Hugo, dont je m'entretiendrai avec Annie Lebrun. Et aujourd'hui ?
A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle. Je dirai quelques jours vos naissances latentes. A, noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles. Golfe d'ombre, E, candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelle. I pourpre sans cracher, rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes. U cycle, vibrement divin des mers virides, paix des pâtis semées d'animaux, paix des rides que l'alchimie imprime au grand front studieux. O suprême clairon plein des strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges. O l'oméga rayon violet de ses yeux.
Du poème Voyelle d'Arthur Rimbaud, lu par Guillaume Gallienne. Alors aujourd'hui, en ouverture de cette semaine, comment ne pas faire appel à vous, Michel Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études, où vous avez occupé durant 35 ans la chaire d'histoire de la symbolique occidentale. Vous êtes aussi un spécialiste en histoire des animaux, des images, des symboles et également des couleurs qui vous ont beaucoup occupé, puisque vous avez raconté l'histoire du bleu, du vert, du rouge, du jaune et donc du noir dans le livre « Noir, histoire d'une couleur » publié en 2008 aux éditions du Seuil est toujours disponible dans la collection Point. C'est aussi d'ailleurs au Seuil que vous avez donné en 2017 votre journal chromatique des années 2012-2016 sous le titre « Une couleur ne vient jamais seule ». Et c'est un livre où vous racontez avec beaucoup d'humour un certain nombre d'anecdotes et notamment une nuit passée dans un hôtel de Zurich où vous aviez eu beaucoup de difficultés à vous endormir dans une couette noire et vous avez été obligé finalement de tout enlever, de tout mettre devant un placard à balai loin de la porte de votre chambre et puis de dormir directement sur le matelas, c'est ça Michel Pastoureau?
Oui, vous m'avez bien lu, j'ai raconté tout cela d'un hôtel ultra chic et ultra moderne et toute la literie était noire dans la chambre, pas seulement la housse de couette mais le drap du dessous, la tête d'oreiller. J'ai eu une réticence, puis je me suis moqué de moi-même. J'ai dit, c'est trop bête, je peux me coucher là-dedans. Et puis pas du tout. Au bout d'un moment, je me suis relevé, j'ai tout enlevé. Et j'ai dormi sur la laise, sur la soutée. Et j'ai fait une boule avec cette literie toute noire. Je suis allé la porter dans le couloir, devant en effet une porte de placard à balai. Et le lendemain, j'ai demandé à la réception si toutes les chambres avaient une literie noire. Et on m'a répondu, mais oui monsieur, tout a été conçu par le grand décorateur dont j'ai oublié le nom et j'avais l'air sacrilège d'avoir enlevé ce qui était une création artistique, tout noir. Peut-être que je suis trop vieux pour dormir dans des draps noirs. Nos arrière-grands-parents ne l'auraient jamais fait, mais peut-être que mes enfants le feraient sans aucun problème.
Qu'est-ce qui vous gênait fondamentalement ?
C'est l'idée que ce soit tout noir. Ça aurait été noir et blanc, noir et gris, noir et vert foncé. Ça m'aurait moins gêné. Mais poser sa tête sur une taie d'oreiller toute noire et être recouvert par une housse de couette noire, je me suis dit que le diable allait venir ou quelque chose comme ça.
Aujourd'hui, vous êtes habillé en noir. Nous sommes dans un studio qui est noir et gris.
Oui, je n'ai rien contre le noir, bien au contraire, et je m'habille fréquemment en noir ou en gris parce que je suis un homme corpulent et j'ai dans l'idée que ces couleurs foncées amincent la silhouette. Peut-être que je me trompe, mais ce sont des couleurs que je porte souvent. Un psychologue qui dirait « Pastoureau est toujours habillé en noir, ça doit être un homme très triste », se tromperait complètement. Il ne faut pas juger sur la couleur.
Il y a une profession qui est toujours habillée en noir, c'est la profession des architectes.
Oui, je m'en suis rendu compte en faisant des conférences, les architectes, mais aussi les stylistes et couturiers, souvent les hommes sont habillés en noir. Il y a l'idée qu'avec le noir, on fait pas d'écart, on ne fait pas de faute de goût, le noir se marie avec à peu près tout, et il est relativement neutre dans nos sociétés contemporaines. On le voit bien d'ailleurs dans les enquêtes d'opinion, quand on demande aux personnes dans la rue quelle est votre couleur préférée, une sur deux répond bleu, le bleu écrase tout. Mais le noir est milieu de gamme, ça n'est pas le dernier cité, il est au milieu des réponses.
C'est mieux que le jaune, parce que les personnes en général n'aiment pas le jaune.
Voilà, c'est parmi les six couleurs de base, l'ordre c'est bleu, vert, rouge, noir, blanc, jaune. Si on avait fait de telles enquêtes il y a quelques siècles, et si on avait les résultats, le noir serait probablement cité en dernier, notamment au Moyen-Âge, où c'était la couleur quand même du diable pendant assez longtemps, de la mort, du péché. Etc.
Qu'est-ce que ça dit, selon vous, de notre société, qu'aujourd'hui on aime le bleu et aussi un petit peu le noir, du coup, qui se trouve en milieu des couleurs citées? Est-ce que ça signifie quelque chose?
Une psychanalyse à la petite semaine dirait que c'est en liaison avec une certaine tristesse de nos sociétés, qu'il y a une crise, qu'il y a de la mélancolie. Le bleu et le noir sont des couleurs mélancoliques. Le bleu, c'est la couleur du premier mouvement romantique, le noir du deuxième mouvement romantique. Bon, je ne sais pas si on peut aller si loin dans les phénomènes collectifs. Le bleu, c'est la couleur du rêve. On pourrait dire sagement que nos sociétés contemporaines ont aspiration à rêver, ou ont soif de l'infini. Et puis, le noir, comme toutes les couleurs, a ses bons et ses mauvais aspects, mais il y a un noir créateur, il y a un noir moderne, il y a un noir digne. Donc, il faut pas être pessimiste et voir des bonnes choses dans ce noir contemporain.
Ouais. Et le noir de l'hôtel suisse, qu'est-ce qu'il signifiait? Est-ce qu'il signifiait le luxe, comme on a souvent tendance à le dire au sujet de la couleur noire?
Oui, c'était dans cet hôtel un 5 étoiles à Zurich. C'était à la fois le luxe et la modernité, parce que tout était très design. Et donc la chambre était avec une literie noire, et puis du blanc et du gris foncé. La salle de bain, du blanc et du gris clair. Autrefois, on aurait dit les couleurs sont absentes. Mais pour moi, qui représente l'histoire et les sciences humaines, évidemment que le blanc, le noir et le gris sont des couleurs à part entière.
Est-ce qu'ils représentaient aussi la Suisse protestante?
Oui, ça n'est pas du tout impossible. Nous sommes chez Zwingli et la réforme et les grands réformateurs du protestant du XVIe siècle moralisent beaucoup les couleurs et distinguent des couleurs honnêtes et d'autres qui ne le sont pas. Pour un bon chrétien, ça concerne le vêtement, ça concerne la vie quotidienne, ça concerne l'art, ça concerne le temple. Et les couleurs honnêtes sont, selon Calvin, Zwingli et quelques autres, le blanc, le noir, le gris, le brun et le bleu, qui est dans le bon groupe. Et les couleurs déshonnêtes qu'il faut fuir sont le rouge, le jaune et le vert, jugées trop voyantes, donc indécentes. Et ça n'a l'air de rien, mais la contre-réforme catholique reprend une partie de ses valeurs pour le vêtement et la vie quotidienne. Et donc on vit encore partiellement là-dessus aujourd'hui. On ne s'en aperçoit pas, on n'en a pas conscience, mais l'historien, lui, le sent.
Alors on va revenir sur toute cette histoire et notamment sur l'apport des religions dans l'interprétation qu'on a fait tout au long des siècles de cette couleur. Mais ce qu'il faut redire d'abord, c'est que la couleur en soi, tout comme d'ailleurs la forme, ne signifie rien. C'est toujours la société qui donne aux couleurs des significations. Quand tout à l'heure vous avez dit finalement si la société d'aujourd'hui aime le bleu, c'est peut-être parce qu'elle est d'une tendance mélancolique. En réalité, ça ne peut s'appliquer que à notre société.